qui sont le chapitre 32, versets 2 et 3. Juste la paracha précédente de la Mitzvah. Il va pas là-dedans. Écoutez, vous avez dans votre édition, vous avez un verset 55 du chapitre 31. Ouais. En réalité, c'est le verset 1 du chapitre 32. C'est pas le verset 55 du chapitre 31, c'est le verset 1 du chapitre 32. C'est pourquoi ma référence ne collait pas. Alors je vais vous donner une référence de votre livre. Enfin, il y a une erreur de typographie, je sais pas. Peut-être que c'est un autre livre qui vérifie dans cet autre livre. Ah bon. Bon, donc chez vous c'est vrai. Donc c'est dans cette édition que ça va pas. Top. C'est bizarre ça. Hein. Qu'est-ce qui est dit ça? C'est pourtant une Torah de Sinaï, c'est l'édition Sinaï. Alors, voilà ce que dit le verset 2, donc, le verset 1 de votre chapitre. Yaakov alach le darko, et Jacob alla son chemin pour revenir en direction du pays de Canaan, Baïpiroubo malaché Elohim. Et le rencontrèrent, c'est même dire le heurtèrent, l'arrêtèrent, Baïpiroubo malaché Elohim, des envoyés de Dieu. Ici, le mot de malach, qui a le sens de envoyer, va être tout de suite défini par le contexte lui-même comme étant pas n'importe quelle sorte d'envoyé, mais des anges. Vous savez que le mot de malach en hébreu, ça veut dire un envoyé, chargé d'une melacha, qui a une mission à accomplir, mais en fin de compte, à un autre niveau, ça veut dire un ange. Un ange, on ne sait pas ce que c'est, je ne sais pas si on aura le temps aujourd'hui de parler de ce problème, mais admettons par postulat que la Bible, elle, c'est de quoi elle parle. Okay. Mais en tout cas, des anges, c'est pas des hommes. Donc, tout de suite, le verset suivant nous dit, « Vayomer Yaakov ka'asher ra'am » et Jacob dit, lorsqu'il les a vus, ces anges, « Mahane Elohim » c'est un camp de Dieu. « Mahane Elohim » c'est un camp qui appartient à Dieu. Un Mahane, vous savez ce que c'est. « Vayikra shema makomahu Mahanaï » et il nomma le nom de cet endroit « Mahanaï ». Le mot de « Mahane », le camp, mais au duel, « Mahanaï ». Et je reviendrai donc sur cette question. Pourquoi la Torah, après nous avoir dit que Jacob prend acte qu'il y a un Mahane Elohim, va nommer ce Mahane Elohim Mahanaim, au duel. Il y a deux camps, il n'y a pas un seul. Première question. Alors je continue le texte. Vaishlach Yaakov Malachim Nefanav. Et Jacob envoya des Malachim devant lui. Il va envoyer une délégation à Esaü pour essayer de faire la paix. Ça, c'est le premier récit. Et là, nous avons le même thème, Malachim. Et il y a une discussion dans le Midrash Rabbah, une discussion de savoir si ce sont des envoyés Bassar Vadam, de chair et de sang, des hommes, ou si c'est Malachim Mamash, des envoyés vraiment, c'est-à-dire des anges. Malachim Mamash, des anges vraiment. Prenez Rachid. Rachid tranche dans cette discussion. Rachid dit, vous voyez, c'est clair, une question de religion simple. Rachid dit, Malachim Mamash, c'est des anges vraiment. Alors on pourrait lui demander pourquoi on pouvait en douter. Si on ne sait pas qu'il y a une marloquée dans le Midrash, je crois que dans notre texte, on aussi le savait du Midrash Rabbah. Okay, mais Rachid a tranché. Il y a deux opinions dans le Midrash Rabbah à ce propos. Shiluché Bassar Vadam, des envoyés de chair et de sang, ou Malachim Mamash. Les deux opinions sont dans le Midrash. Je vais me baser sur l'étude de ce problème, sur un enseignement du Shlach, Shnei Luchot Abri, qui va inspirer l'étude que nous allons avoir. Avec, sur essentiellement cette question, vous aurez là un exemple d'exégèse rabbinique très, très poussé. Qu'est-ce qui fait que Rashi a tranché entre deux opinions de Baalé à Midrash, l'un qui a dit que c'est de Malachim Mamash, et l'autre qui a dit que c'est de Shiluché la Savadam. J'ai compris en hébreu ce que ça veut dire. D'autant plus que la simple lecture semble donner raison à Rashi, puisque Jacob vient de rencontrer des anges, et juste après, deux mois après, on nous dit qu'il envoie des malachim. Alors ce mot de malachim, reporté au contexte précédent, ça veut dire des anges. Et pourquoi il était nécessaire que le Midrash dise c'est des anges, puisque ça va de soi apparemment. Donc c'est que ça va pas de soi. Mais nous allons un peu continuer la lecture. Et rappelons qu'on doit revenir à la première question. Pourquoi le texte, après avoir dit Mahane, nous dit Mahanaim, au duel? Alors, Veshlar, Yaakov, Malachim, Lefanav, tout de suite vous allez être sensible à une sorte de répétition de tous les termes du verset. Et Jacob envoya des anges, nous a dit Rashi, des Malachim, Lefanav, devant lui. Il y a un mot de trop. Envoyé, ça veut dire devant lui. Et donc, il y a déjà répétition. Esav, Achi, à Esaü, son frère. Artsa, Seir, en direction du pays de Seir, Esne, Edom, du champ de Edom. Et Artsa, Seir, Esne, Edom, c'est la même chose. C'est une répétition. Vaitsa, Rotam, les mots. Répétition. Et il les ordonna en disant Kotomrum, ainsi vous direz, l'Adoni, les Esav, à mon maître, à Esaü. Encore répétition. Koama Avdecha Yaakov. Ainsi a dit ton serviteur Jacob. Im Laban Garti. J'ai séjourné chez Laban. Vaecha Al-Hata. Là peut-être la répétition est moins visible. J'ai séjourné chez Laban et j'ai tardé jusqu'à présent. Mais en fin de compte, ça, c'est la même chose. J'ai séjourné chez Laban. C'est pour ça que je te donne le signe de vie que maintenant. Et ça va de soi. Et ensuite, il y a tout un message qui va se développer. Il envoie ce message avec ses messagers, et puis nous allons reprendre au verset 6. Yashuvu Hamalachim, et les anges, donc les envoyés, revinrent. Verset 6, donc c'est 5 ou 7, je sais pas. Et Yaakov le mot, les envoyés reviennent chez Jacob en disant Banu la Hefer Esav, nous sommes allés chez ton frère chez Esaü, le gars mon lèche l'écrasera, et même il vient à ta rencontre, vers Barmeodish Uno, avec 400 hommes, la Midrash explique 400 hommes de guerre, 400 soldats, une armée. Baïra Yaakov Meod Baïtseu, et Jacob eut très peur et il fut dans l'angoisse, Baïachat et Taham Acherito, et il sépara le peuple qui était avec lui, toute sa famille, sa smala, comme on dirait en français, que c'est pas du français, le troupeau, le menu bétail, le gros bétail et les chameaux, l'ishne machanot, en deux camps. Et cette fois, nous avons le même mot que machanaim, mais avec un pluriel féminin, machanot. Alors, je crois que, on va essayer très rapidement, et encore une fois, la source de cet enseignement, c'est dans le Shla, qui se base sur le Zohar, de répondre à toutes ces questions à la fois, je vous l'indiquerai très précisément. Jacob revient de son exil et il va passer une épreuve d'identité dont l'objet est de lui et de savoir s'il peut recevoir ou non le nom d'Israël. C'est bien clair, puisque c'est la suite du récit. En fait, toute l'organisation du récit peut être résumée dans ces deux moments à la fin de l'exil. L'épreuve de recevoir le nom d'Israël. Remarquez à quel point ça ressemble vraiment aux événements à l'échelle de la société juive en général, à la fin de l'exil, l'épreuve de recevoir le nom d'Israël. Parce que dans l'exil, vous vous rappelez, nous l'avons déjà étudié, sinon je vous donnerai la référence, dans l'exil, Israël ne s'appelle pas Israël, sinon par, comment dit-on ça en français, par allusion, par prétérition, je crois qu'on dit ça dans le peuple. Sinon, parce qu'on sait que c'est quand même Israël en potentiel. Israël s'appelle Jacob en exil, de nouveau. Après avoir reçu le nom d'Israël, Jacob peut être de nouveau dénommé Jacob lorsqu'il va en exil. Et lorsqu'il revient de l'exil, et là c'est la première fois qu'il revient de l'exil, il reçoit le nom d'Israël. Finalement, le peuple juif n'a pas été nommé Israël pendant ces 2000 ans d'exil, il a été nommé le peuple juif, en arrivant ici qu'il est nommé Israël. J'ai schématisé beaucoup de choses. Hein. Et nous sommes encore au stade d'une contestation. L'ange d'Ésaü ne veut pas encore dire Israël. En particulier la civilisation chrétienne qui est encore en contestation et se demander si c'est vrai que c'est les juifs qui sont Israël. Vous avez compris l'importance du problème. Ce thème-là bien évidemment. Je vais vous donner cela tout de suite. Prenons le chapitre 46, si je me souviens bien. C'est ça, 46, verset 2. C'est au moment où Jacob va descendre en Égypte, rejoint Joseph. Vous avez la page 228. À la page 228. Alors, 46, verset 2. Vayomer Elohim le Israël. Et Dieu dit à Israël, Bemarot alaïla, dans les visions de la nuit. Vayomer, il dit Yaakov, Yaakov. Et il l'appelle Jacob. C'est-à-dire, il va descendre en Égypte. Alors, disons, les conditions de la révélation sont les visions de la nuit, parce que, comme vous savez, l'exil est comparé à la nuit, et l'Eretz Israël est comparé au jour, dans le temps d'Israël. Nous avons déjà étudié cela. Vous avez cité une fois que, chaque fois que j'avais à voyager, je demandais congé de mon maître, pour me souhaiter mon voyage, il me disait là de la peur. Lorsque Jacob donc descend en exil, alors il est de nouveau nommé Jacob. C'est clair. Alors je reviens. Vous voulez encore un autre verset peut-être? Ou c'est suffisamment clair avec celui-là? Ça va avec celui-là. Ouais. Et je reviens donc à ce que nous disions. L'objet de ce récit, c'est de nous montrer Jacob, revenant de son épreuve d'exil et passant l'épreuve, est-ce que finalement il est digne du nom d'Israël? C'est à de nouveau. Il y a deux épisodes. D'abord, l'ange d'Ésaü. C'est-à-dire le principe de l'identité d'Ésaü qui le lui conteste jusqu'au bout. Et en fin de compte, Jacob, l'homme, est fini par le vaincre, alors il le nommera Israël. Et il disparaît, l'ange d'Ésaü. Vous avez un grand principe concernant l'angéologie. Je vous parle de choses, on sait pas ce que c'est, mais enfin, maintenant au moins, c'est que chaque ange a une mission à accomplir. Lorsqu'il accomplit cette mission, il chante son chant et il disparaît. Alors l'ange d'Ésaü, à la fin de la nuit, disparaît. Et en disparaissant, son chant, c'est de dire à Jacob, eh bien, c'est toi Israël. Vous voyez ce qu'il est arrivé à Rome. Ça finira par le réveil. Alors, le deuxième épisode, c'est quand Dieu lui-même donne à Jacob le nom d'Israël. Il y a une phrase dans le Birkat Hamazon de Rite Ashkenaz qui relie un peu ce thème-là. Bien sûr, nous savons que Dieu nous a appelé Israël, mais tant que l'humanité ne nous appelle pas Israël, c'est encore en question. Et alors, dans le récit de la Torah, on voit bien qu'il y a une lutte pour obtenir que l'ange Ésaü nomme Jacob d'Israël, mais ensuite seulement, Dieu confirme vraiment qu'il appelle Israël. Et vous verrez vous-même, c'est le thème. C'est une épreuve importante. Ça veut dire que, simultanément, Jacob doit s'expliquer devant Ésaü son frère, qui lui conteste son identité, et devant Dieu, qui doit décider à qui va l'identité d'Israël. C'est-à-dire ? Alors là, je vais citer un principe, je me base donc sur le Shlach, peut-être un peu difficile à étudier. Il faisait trop de préalables, enfin je vais essayer quand même de le schématiser, c'est pas si difficile que ça quand même. Je me souviens que nous l'avons étudié il y a 2 ans, probablement. Et c'est ceci. Il faut se référer à la définition du monothéisme absolu. C'est que le monothéisme absolu, ça veut dire que c'est un Dieu unique qui est providence de l'histoire de toutes les créatures. Donc le monothéisme juif, ça ne veut pas dire que ce Dieu unique est providence que d'Israël, qui ne s'occupe que d'Israël. N'est l'avocat que d'Israël. C'est un peu la mentalité dans les autres traditions religieuses, c'est que le Dieu, c'est le Dieu de ses fidèles, et les autres sont ses ennemis. Mais un monothéisme réel, authentique, absolu, comme le monothéisme hébraïque, le monothéisme juif, ça veut dire qu'il n'y a vraiment qu'un seul Dieu. Et que c'est le même Dieu qui est providence et de Jacob et de Jaï. Est-ce que c'est clair? C'est bien clair ce principe? C'est la difficulté d'être juif. Ça veut dire que notre Dieu est aussi le Dieu des autres. Qu'ils le reconnaissent ou pas, ça c'est notre problème. C'est bien clair. C'est pas une monolâtrie, le monothéisme. C'est un monothéisme radical et absolu. Je raconte une petite anecdote. Je vais peut-être souvent raconter pour illustrer ça. Je me trouvais un jour dans un congrès théologien en France. Et un théologien, un prêtre m'a demandé, c'était une question insidieuse d'ailleurs, « Monsieur le rabbin, est-ce que vous croyez au miracle de l'eau ?» Alors j'ai dit « Oui, j'y crois, mais à une condition, c'est que l'Église les a habilités. » Imaginez la stupéfaction dans la salle, un rabbin qui croit au miracle de l'eau. Et alors, de l'eau, tu vois, un peu d'eau lourde. Là, alors je voudrais expliquer. Le fait qu'il y ait un miracle à Lourdes, ou ailleurs d'ailleurs, même chez les Esquimaux, ben, ça ne signifie pas que le catholicisme soit plus vrai que le judaïsme ou même l'inverse, ben, ça se problème. Ça signifie que Dieu s'occupe de ses créatures, même catholiques. Un point. C'est ça le mon objectif. C'est vrai ce que je dis. Et ils n'ont pas compris, donc c'est pas grave. Mais alors, c'est cela, c'est que Jacob doit se justifier simultanément devant Ésaü, son frère, qui est en contestation avec lui, et devant Dieu pour Ésaü. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire? Bon. Vous voyez, par exemple, un ennemi d'Israël, dans sa foi religieuse à lui, est tranquille. Son Dieu est contre Israël. Tandis que Israël, qui a un problème avec un ennemi d'Israël, c'est pas si simple que ça. Parce qu'il doit se mesurer aussi avec la volonté de Dieu pour son ennemi. Vous avez compris la difficulté. Bon, c'est ça que je voulais essayer d'exprimer. Et il y a un décalage moral considérable, enfin, qui est un bar impossible à combler, entre la morale religieuse des autres religions autour d'Israël, je ne pense pas forcément à l'islam, mais ça va avec, hein, et puis Israël lui-même. Et vous savez comment ça fonctionne. Et ça fonctionne encore peut-être plus chez les incroyants que chez les croyants. Vous avez remarqué. Alors en tout cas, c'est ce que nous apprenons et c'est ce qui nous explique ce doublement du vocabulaire. Okay. Et on reprend. Vaishlach Yaakov Malachim, Lefanav. Bien sûr qu'il a envoyé, ça veut dire qu'ils sont devant lui. Mais il les envoie à celui qui est devant lui. Etc. Pas la peine de faire l'analyse, ça nous prendrait trop de temps. Mais par exemple, El Esav Achiv. Esav, en bas, sur terre, c'est Ésaü, le rachat. En haut, c'est son frère. Alors, il faut que, simultanément, ce plaidoyer se formule à deux niveaux. C'est bien clair? D'où la marloquette du Midrash Rabbah. Il a envoyé les uns et les autres. Sur terre, il a envoyé des envoyés de terre. Et dans le ciel, il envoie des malachim mamash. C'est clair? Alors, pourquoi Rashi nous a tranché entre les deux? Voilà donc notre question plus précisée. Ça va jusque-là? Bon, alors je reviens maintenant à la question préalable. Yeshéla? L'autre façon. Mal autre façon. C'est l'autre façon. Comment Jacob peut dire à Ésaü, à propos d'Ésaü, Kotomrun l'Adoni l'Aesa? Ainsi vous direz à mon maître Ésaü. Ça veut dire qu'il y a une modalité où Ésaü est son maître. Il s'agit du maître d'Ésaü. Kotomar l'Adoni, il s'adresse en haut. L'Aesav, il s'adresse en bas. Et ainsi de suite. Artsa Seir, c'est pour en haut. C'est pour en bas. Sde Edom, c'est pour en haut. Etc. Ça va jusque-là? Et après, on va voir Jacob se prosterner devant Ésaü. Parce que Jacob se prosterne devant Ésaü. Et il se prosterne en direction de la terre. C'est-à-dire du dieu de la terre. Ésaü est devant lui. Il y a cette filoute. Est-ce que c'est clair jusque-là? L'expression hébraïque, c'est l'ishtahavot artsa. Bon, le midrash va être terrible pour Jacob qui se prosterne devant Ésaü. Bien sûr, Jacob n'a pas l'intention de se prosterner devant une idole qui s'appelle Ésaü. S'il se prosterne, c'est qu'il reconnaît une souveraineté du Dieu unique qui passe aussi à travers la manière d'être homme qui s'appelle Ésaü. Alors, ce que je reviens, c'est ça dont parle la tradition lorsqu'elle parle des anges tutélaires des nations, les sarim. Toutes les nations ont un sar, un génie céleste, qui est l'expression de la volonté du Créateur unique pour telle manière d'être homme en particulier. Le cas d'Israël est spécial, Israël n'a pas d'intermédiaire, c'est Dieu lui-même qui est le Dieu d'Israël. Je répète la formule, c'est Dieu lui-même qui est le Dieu d'Israël. Alors que pour les autres, c'est par délégation d'un génie tutélaire, le sage de chaque nation. En français, le mot de génie donne exactement le sens. C'est à la fois le génie dans le sens de la... le génie dans le sens de l'angéologie, un génie, un archange, okay, et en même temps le génie dans le sens abstrait, c'est-à-dire la manière d'être homme que cela représente avec les valeurs très particulières que ça représente. Ce qui fait qu'un Français n'est pas un Allemand n'est pas un Français, et on le doit à son sar, et la France a un sar, et l'Allemagne a un sar, et toute créature a une volonté de Dieu pour elle, un projet du Créateur pour elle. Non. Non, non, c'est parce que tu crois que c'est des sarrives. Pour revenir au problème, le sar Israël est nommé Michael. La Gemara explique très clairement que quand Israël est authentique, c'est Dieu lui-même qui est sa providence. Et quand Israël est inauthentique, alors il a un sar, mais ce sar s'appelle Michael, qui est comme Dieu. Ça veut dire on regarde tout de suite plus haut. Bon, je referme la parenthèse. Il y aurait énormément d'analyses à faire à ce sujet, sur la naissance du christianisme à travers cette idée-là. Mais, enfin, je referme la parenthèse. Alors, je pense que tu as un peu plus compris. Okay. C'est-à-dire, Israël est confronté à ce que le verset va dire pour expliquer pourquoi Dieu le nomme Israël, qui s'arrita, qui melokim va Adam va Tuchal. Et c'est le seul cas dans l'histoire de l'humanité. Israël est confronté à cela. De lutter avec des forces divines et humaines, et c'est pourquoi il reçoit le nom de Israël. C'est clair. Alors ça vous explique que fait la chose. Ça va, c'est plus compréhensible. Il y a dans la Gemara cet enseignement qu'une nation ne peut pas vaincre une autre nation si le sar de cette nation n'a pas déjà vaincu le sar de l'autre nation. C'est-à-dire que ça se décide en haut avant de pouvoir se faire en bas. Je vous donne un exemple. Parmi d'autres, beaucoup d'autres. Un exemple assez particulier m'a beaucoup frappé pendant la guerre mondiale. La Russie tout entière, un géant énorme, qui a attaqué la Finlande. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Et la Finlande, un tout petit pays, qui a tenu échec à la Russie. Bon, en fin de compte, la Russie a gagné la guerre contre la Finlande. Et pendant des mois et des mois, les Finlandais qui tenaient en échec la Russie tout entière. Parce qu'ils avaient une force morale qui leur permettait de tenir le coup. C'est-à-dire, un pays ne perd une guerre quand il a déjà perdu moralement. Alors il la perd physiquement. Et je crois que l'exemple le plus clair pour nous qui sommes francophones, c'était la guerre d'Algérie. Pourquoi la France a perdu la guerre d'Algérie? Parce qu'elle avait déjà perdu moralement, alors elle l'a perdu physiquement. Puisque au niveau, si vous voulez, des lois de la guerre, il n'y a aucune raison qu'elle perde cette guerre. Bon, vous voyez qu'on pourrait pousser des analogies du moins, mais ce n'est pas nécessaire. Parce que cette guerre-là, on ne la perdra pas. Voilà donc sur ce point. Alors on revient maintenant à la première question. Et je vais lire ce que nous dit Rachid. Donc, quel est le problème? Jacob revient de l'exil et à la frontière, ben, j'anticipe un peu sur Rachid, à la frontière, il rencontre des anges. Et alors il dit, ça, c'est Mahane Elohim, mais il appelle l'endroit où ça se passe Mahanaim. Je voudrais bien savoir si dans l'Israël moderne, on a localisé ce Mahanaim. Et c'est le Mahanaim du récit, ou c'est un autre? Donc, où se trouve Mahanaim?
C'est dans le Mishdan.
Hein?
C'est
dans
le Mishdan.
Je pense pas que ça soit possible.
Ça peut
être n'importe
où.
Donc ça doit être ce Mahanaim. Et alors, nous allons voir ce que dit Rashi. Pourquoi il a dit Mahanaim au duel. Prenez en bas de la page 154, chapitre la Medbet à l'œuvre de Rashi, en bas. Page 154. Ve'il kabo malaché Elohim, malachim sheleret Israël ba'ul ikrato. Les anges d'Eret Israël sont venus à sa rencontre. Les lavoto la haaretz pour l'accompagner en Eretz Israël. Machanaïm, j'te machano. Chez Chutzalaharet, chez Bao Aimo Adkan, Machanaïm est au duel parce qu'il y a deux camps. Les anges de Chutzalaharet, il n'y a pas une question là-dessus, parce qu'il y a des anges. Bon, on va voir ce que c'est. Les anges de Chutzalaharet l'ont accompagné jusque-là, mais chez l'Eretz Israël, chez Bao Likrato, et ceux d'Eretz Israël qui sont venus à sa rencontre, et par conséquent, ça nous résout notre problème. C'est donc Drach Nankrouma que cite Rashi. Ça veut dire que Jacob est accompagné par les anges de Chutzlaret jusqu'à la frontière, et puis il est accueilli par les anges d'Eretz Israël à la frontière. Donc il a vu deux camps. Le Shla explique cela par le fait, et c'est vraiment très lié au contexte, que d'autre part, une autre tradition, c'est que chaque fois qu'un homme a un mérite, il a un ange qui l'accompagne, un ange positif. Et chaque fois qu'il fait une avera, il a un ange négatif. Et donc, Jacob est accompagné par ses mérites qu'il avait acquis en toute la Haaretz, et il est accueilli par les mérites qu'il a par rapport à Eretz Israël. La question est, lesquels des malachim, selon Rashi, il a envoyé à Israël. Nous, on est maintenant centrés là-dedans. Et comment raisonne Rashi? Étant donné qu'il y avait deux sortes de malachim, et que ça veut dire les mérites qui vont lui justifier le nom d'Israël, quel malachim il envoie en direction de son problème d'épreuve? Est-ce qu'il envoie le malachim de Chutzlaret, ou est-ce qu'il envoie le malachim d'Eretz Israël? Rashi ne tranche pas en disant malachim mamash, c'était la marquette de la Gemara. C'est moi qui explique comme ça pour résoudre le problème. La réponse est très simple. Et nous l'avons dans le plaidoyer même du message que Jacob envoie à travers ses malachim. Et nous allons voir qu'il s'agit effectivement des malachim d'Eretz Israël qui vont aider Jacob à avoir le nom d'Israël. Vous avez compris le raisonnement? Donc, on va le voir sur Im Laban Garti Vaecharata qui est à la fin du verset 4. Voilà le contenu du message envoyé à Ésaü. Im Laban Garti Vaecharata. J'ai séjourné chez Laban et j'ai tardé jusqu'à présent. Prenez Rashi. À la deuxième ligne de Rashi, Garti. Lona Asiti Sar Vechashu. Hein? Tu as vu? Je ne suis pas devenu sage de Hachou, mais Garti, ça veut dire j'ai séjourné. Mais cette racine, c'est la même d'où proviendra le mot de guerre dans le sens de étranger. Un étranger ne devient pas premier ministre. Ça fait ce qu'on pense. Ça veut dire que Jacob a préservé son identité d'Eretz Israël. Il n'a pas accepté de devenir le premier ministre de Laban, un Libanais quelconque. Okay. Probablement, grosso modo, le pays de Laban, c'est Lebanon, c'est évident. Et alors, il est resté attaché à la terre d'Israël. Il est resté guerre à l'étranger. Ça va jusque-là? Deuxième indication. Donc, je finis d'abord cela. Et par conséquent, puisque je suis resté étranger, Metek, on dit en français, okay. Et où est-ce qu'il était Metek? Chez son beau-père, qui était son oncle. Okay. C'est le récit précédent où on le considère comme un berger, comme un domestique, en fait, pratiquement, avec qui on fait un contrat, mais enfin quand même. Et ici Rashi cite le Midrash, mais la formule est très importante. Ce qui lui donne le droit de revenir en Eretz Israël, c'est qu'il ne s'est pas cru chez lui ailleurs. Je pense que c'est vrai. Mais donc, pourquoi je dis que Rashi a tranché dans la marque du Midrash en disant c'est des malachim mamash parce qu'il avait besoin d'envoyer son mérite de Eretz Israël. Deuxième réponse de Rashi, c'est Im Laban Garti. Garti. Attendez, je continue. La bénédiction que Isaac avait donnée à Jacob était Heve Kevir Leahecha, soit. Gevir, noble par rapport à ton frère, Gevir, maître, dominateur, maître de ton frère, Sheharé Lonika Yemabi, puisqu'elle ne s'est pas réalisée pour moi. J'ai entendu une fois un très joli kiddush là-dessus. Vous voyez, Gevir. Alors Jacob lui dit,
mon père m'a béni par le mot de guérir. Mais le bi de guérir, le nez de Kayama. Le nez de Kayama, bi. Alors, en tout cas, du point de vue de la signification, c'est très important. Cette première réponse, c'est qu'il est resté fidèle à Eretz Israël. C'est bien clair. Alors, vous voyez toutes les implications que ça peut avoir pour nos problèmes contemporains. Deuxième réponse, d'avoir un her, Garti, Begomatria, Tariad. Garti, c'est les lettres et d'ailleurs la valeur numérique du nombre des commandements de la Torah. Il y a une autre allusion, Kloma, Im Laban Garti, j'ai séjourné chez Laban. Betariad Mizro Shamarti, et malgré cela, j'ai préservé. Il n'y a pas ici Kiamti, Asiti, mais Shamarti. J'ai quand même préservé les 613 commandements. Veno Lamati, mais Marasa Varai. Et je n'ai pas appris de ces mauvais comportements, de ces comportements du mal. Donc, c'est bien un plaidoyer. Ce n'est pas simplement une information historique. J'étais chez Laban, j'ai tardé jusqu'à présent. Ce n'est pas du tout ça. J'étais chez Laban, j'ai aimé, voilà comment j'étais chez Laban. Et c'est pourquoi j'ai tardé jusqu'à présent, si on peut l'expliquer comme ça. C'est-à-dire, il a fait la preuve qu'il méritait le nom d'Israël. Parce que dans les conditions de déperdition d'identité, il est resté fidèle à son identité. Je crois qu'il y a là le frère du Maharal, Rabbi Chaim. Le Maharal s'appelle Rabbi Yehuda, et son frère s'appelle Rabbi Chaim, a écrit un livre très important qui s'appelle Sefer HaChaim d'ailleurs. Dans un de ses chapitres, il donne une explication de l'exil extrêmement paradoxale. Que l'exil, il donne, je crois, 17 explications en tout, mais une d'entre elles que je vous cite maintenant, dit ceci. C'est une mise à l'épreuve de la fidélité d'Israël. Pour savoir si vraiment Israël est capable d'être fidèle à Eretz Israël. Parce que nous reviennent de l'exil que ceux qui sont fidèles à Eretz Israël. Mais pourquoi ça dure si longtemps? C'est mystérieux. Alors il y a 16 autres réponses. En tout cas, là il y a aussi une indication très importante. Ça veut dire que Jacob, dans l'exil, est passé par l'épreuve de cette interpellation « Es-tu Israël ?» Rester fidèle à Eretz Israël dans l'exil et à la Torah dans l'exil, c'était surhumain. Et bien il l'a fait. Voilà son plaidoyer. C'est vrai jusque-là. Je voudrais quand même, dès qu'on approche un peu de l'heure, peut-être déborder sur 5 minutes, aborder un deuxième niveau du problème. En tout cas, retenons cela. C'est que l'identité Israël va désigner, et vous le voyez dans ce Rashi, trois dimensions simultanées. Jacob est l'ancêtre du peuple, qui devient le peuple d'Israël. Et puis, il ne reçoit le nom d'Israël que lorsqu'il peut justifier de deux autres dimensions avec le peuple, la fidélité à la terre d'Israël et à la Torah. Je vous ai cité une fois à ce propos le Ben Ishraï, qui le montre de cette manière. Le passage de Yaakov à Israël, c'est ce que dit Rashi ici, c'est la plus Yaakov, plus la Torah et la terre, ça fait Israël. Et il l'indique avec une simplicité comme ça, comme en parlant d'autre chose en passant, mais c'est assez énorme, que la valeur numérique de Yaakov, qui fait 182 je crois, si vous ajoutez celle de Moshe, 345, la Torah, plus David et Eretz Israël, ça fait Israël 541. Ça veut dire que Jacob plus David plus Moshe, c'est ça Israël. C'est un thème très important. Ça veut dire que si vous avez une des dimensions, les deux autres sont ce qu'elles sont, mais Israël n'est pas là. Est-ce que c'est clair? Les trois sont nécessaires pour que Israël apparaisse. Et est-ce que vous avez bien compris qu'on le voit dans Rashi, okay? Jacob doit se justifier d'être resté fidèle à Eretz Israël et à la Torah pour recevoir le nom d'Israël. C'est le même enseignement, mais sous des formes différentes. Bon. Voilà ce que le thème que je voulais ajouter, c'est ce qui arrive par la suite. Lorsque Jacob entend, à partir du verset 16, que son frère s'apprête à lui faire la guerre, alors Vaïra Yaakov Merod, Jacob a eu trop peur, Vaïtserlo, et il fut dans l'angoisse, Vaïachat, c'est un Ram, un chérito, et il sépara le peuple qui y avait avec lui, Vetatsov, Vetabakar, Vagemali, Mishne Machano. Le verset qu'on a cité. Il y a une correspondance qui ne peut pas ne pas être significative. Jacob a vu dans le ciel deux camps, alors il l'appelle Mahanaïm avec le pluriel singulier, et le pluriel masculin. Et puis, alors il fait comme ça sur terre, et il sépare son peuple en deux camps. Les deux camps du peuple de Jacob correspondent aux deux camps célestes, si j'ose dire. Est-ce que c'est bien clair? Quels sont ces deux camps? Vous le verrez vous-même dans les versets qui suivent, lorsqu'il se prépare à rencontrer Ésaü. Alors il y a d'abord les fils de Léa et de Sparrow, toutes les tribus, dans un premier camp, et le deuxième camp, c'est Rachel et Joseph. C'est bien clair. Vous vous rappelez du texte? Alors c'est très important, parce que ça veut dire qu'il met en place une stratégie, et il dit lui-même pourquoi. Vayomer, il dit, il y a vous, Esav et la Machanea Ahat Veikaou, si Esaü vient contre le premier camp et le frappe, Veya Machane Anishar Difleka. Le camp qui restera sera rescapé. Première approche de cela, c'est que, effectivement, une des providences qui a joué dans l'exil d'Israël, c'est que ça a été un exil, je prends l'exemple du troisième exil, l'exil contemporain, un exil extrêmement différencié. Et par conséquent, lorsque Israël était persécuté dans un endroit, il était sauvé dans un autre. Et il y a dans cette protection sur l'exil quelque chose de cette stratégie. Si un des camps d'Israël est détruit, eh bien il y en a un autre qui prend la relève. Bien que ce midrash dit une autre raison. Je pense que c'est clair, on peut relire toute l'histoire de la diaspora juive de ces 2000 ans, mais on s'aperçoit d'un déplacement des centres juifs au fur et à mesure des persécutions. Je ne sais pas ce qu'il y a au-delà de l'Amérique, mais enfin il semble que ce soit assez. Et là, peut-être il y a aussi Israël en passant par l'autre côté du monde, et de la Terre. Mais j'ai lu un midrash, je n'ai pas eu le temps de vous en donner la référence, mais rappelez-le-moi, je vous l'apporterai la semaine prochaine. Un midrash de Babli, qui applique cela à la séparation entre la communauté juive qui est en Eretz Israël et celle qui est en diaspora. Et en disant que la stratégie de Jacob est que, bon, ben nous allons essayer Eretz Israël. Mais si vous aviez plus fort, alors on aura la Gola comme. Par exemple. Mais c'est un midrash ancien. Disons, c'est un peu la stratégie d'aujourd'hui. Bon, pas seulement Lubavitch, je pense que dans beaucoup de milieux fidèles à la Torah, mais pas à Eretz Israël, il y a un peu cette argumentation qui est, je ne sais pas comment dire, qui est très difficile finalement, qui est honteuse, enfin, qui n'est pas noble. C'est-à-dire, bon, bah, débrouillez-vous. Et si vous échouez, on est là pour assurer la pérennité d'Israël. Si vous êtes par exemple en France, je ne vous donnerai pas de précision, mais quand on a fermé les bureaux d'accueil aux réfugiés, parce qu'il y a des réfugiés qui arrivaient, il y a eu une discussion chez les dirigeants du judaïsme français, est-ce qu'on les ferme ou est-ce qu'on ne les ferme pas? Ils attendaient les Israéliens. En tout cas, pour revenir à un problème, puisque c'est la dernière source de réification des communautés. Donc, pour revenir à notre problème, on voit que cette séparation entre les deux camps implique une certaine stratégie. Et le verset n'a pas dit à laquelle des deux pense Jacob, l'État, ça veut dire par réserve, l'État c'est rescapé. Okay. Le Midrash des Babyloniens intervient, des Babylons intervient pour dire c'est la voie de la diaspora, Yaakov Israël et Kol Diaspora. C'est de dire, si Israël est détruit, nous serons pour l'État. Et donc ça justifie de rester en diaspora. C'est un peu ça. Mais si on compare les deux définitions de Mahanaïm et de Mahanot, alors on voit bien qu'il s'agit de cela. C'est-à-dire, Rashi nous avait dit les anges de Koutzaret et les anges de Koutzaret. Et ces deux Mahanot sont effectivement Israël, Eretz Israël, Israël de Koutzaret. Et nous verrons d'ailleurs dans la suite de l'étude que la descendance de Joseph est définie comme cela. C'est-à-dire, déjà, j'ai fait allusion tout à l'heure à propos du mariage, la relation à l'extérieur. C'est-à-dire la descendance de Joseph, c'est la tentative à travers la diaspora, alors que la descendance de Léa, c'est la tentative à travers Israël. C'est bien clair jusque-là? Le moment messianique est défini par le fait que Joseph décide qu'il faut revenir en Eretz Israël. Quand c'est Yehuda qui décide qu'il faut aller en Eretz Israël, ça va de soi. Il n'y a pas de crédouche. Mais quand Joseph décide qu'il faut aller en Eretz Israël, ça c'est un temps messianique. Et c'est pourquoi le premier moment messianique s'appelle Mashiach ben Yosef. Et donc ce même Joseph, qui va être connu pendant tout le temps de sa vie jusqu'au bout, comme le juif assimilé au service du pharaon,
lorsque lui décide que le diagnostic est négatif et qu'il faut ramener ne fût-ce que ses ossements en Égypte, c'est le signe en Israël, c'est le signe du messianisme authentique, du retour de la fin de l'exil. Et c'est Moïse qui fera ce diagnostic. C'est pourquoi il ne quittera pas l'Égypte, Moïse, sans ramener les ossements de Joseph, lui Moïse. Parce que dans son diagnostic, Moïse justifie Joseph. C'est bien clair jusque-là. C'est-à-dire, c'est très important de voir cela, que dans le temps contemporain, le sionisme politique a été effectivement déclenché par de ces juifs-là, qui apparemment étaient les plus assimilés, et quand eux ont fait le diagnostic que l'État a venu de décrocher, et c'est apparemment paradoxal, c'est le fait que le sionisme a été un mouvement politique apparemment déjudaïsé, c'est le signe qu'il est caché. C'est très paradoxal, mais c'est comme ça. Nous en avons le modèle dans le slave de Joseph lui-même. Vous pouvez voir jusque-là ? Je me rappelle d'une anecdote, et puis on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Il y a très très longtemps, j'avais fait un voyage de tourisme en Israël, à l'époque il n'y avait pas d'avion, en bateau. Et alors, sur le même bateau, il y avait un groupe de pèlerins, dirigé par un curé. Ça durait 6 jours, à traverser la Méditerranée, une traversée extraordinaire. On ne sait pas ce qu'on perd, de prendre l'avion ou de prendre le bateau. On reste là, c'est notre problème. Et alors, on avait conversé longuement, et alors, finalement, il s'est enhardi à me poser une question. J'ai extraordinaire Israël, il venait toutes les années avec ses paroissiens. J'ai extraordinaire Israël, on voit vraiment le prophétie s'accomplir, je refleurisais le désert, etc. À cette époque-là, on était, les slogans touristiques sur nous étaient vraiment encore, authentiques. Okay. Enfin, je veux dire, ils avaient cette force-là. C'était le temps où on était contemporain que vraiment le désert est fait ici. On l'a tellement répété qu'on croit que c'est pas important, mais c'est très important quand même. Et ce curé était très frappé de cela, vraiment. Et il sentait bien les contradictions avec sa propre position de chrétien, c'est un autre problème. Et on ajoute une question, mais pourquoi ces hommes de foi ne sont pas pieux? Alors je lui ai dit, d'abord je suis une calomnie, si vous savez combien de synagogues au kilomètre carré en Israël, c'est un autre problème, c'est quand même une calomnie. Bon, c'est un autre problème. Et je lui ai dit, écoutez, si c'était des juifs religieux qui avaient fondé le retour, vous avez remarqué que chaque fois que ça a été des juifs religieux, ça a été joué. Si c'était des juifs religieux, au nom de leur foi, on aurait dit c'est une œuvre humaine. On n'aurait pas été sûr que c'est la providence. Pourquoi ? Les hommes ont une foi, un idéal, ils font tout ce qu'ils peuvent pour l'accomplir. Par exemple, les Mormons en Amérique, ils avaient une vision de la société, il fallait s'exiler, s'expatrier, aller dans la nouvelle Amérique pour fonder la société authentique, les Mormons, et puis donc c'est une œuvre humaine, ils ont accompli leur foi. C'est pas simple, il faut le faire, mais on peut le faire. Le fait que ce sont précisément des gens qui apparemment font profession de foi de ne pas y croire, c'est le signe que c'est Dieu qui le fait. Il est resté comme ça un peu paralysé pendant quelques quarts d'heure, mais enfin, je crois que c'est bien fait. C'est paradoxal, apparemment, mais je crois que nous avons cela exactement dans dans ce même enseignement. C'est Yosef, qui est l'homme de la diaspora, qui déclenche le retour. Ça va jusque-là? Et c'est pourquoi le premier moment messianique s'appelle Mashiach ben Yosef. Il y a aussi d'autres raisons, bien sûr. Mais à ce niveau-là, c'est la raison essentielle. Ça veut dire, j'aimerais bien revenir sur cette analyse et beaucoup plus longuement, parce que c'est une chose que les juifs, non sionistes ou anti-sionistes, au nom de la Torah, arrivent difficilement à comprendre. Que cette histoire nous est déjà racontée, et que c'est comme ça que ça se passe quand ça se passe. C'est-à-dire, pendant toute sa vie, Joseph pouvait être suspecté d'avoir pris le parti du pharaon. Et c'est au moment où il se dévoile que non, il n'a pas pris le parti du pharaon, et qu'il restait fidèle à son identité hébraïque, en allant à l'essentiel, c'est Joseph diagnostiquant que sa tentative de transfigurer la civilisation égyptienne, se mettre au service de l'humanisme égyptien, l'universel de ce temps, c'est un échec. Alors il dit, et quand vous reviendrez...